Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Ah le confinement, ah le confinement, ah le confinement. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous arrivez quand même à décompresser de temps à autre. Ça va finir par passer, ça va finir par passer. Bon, si je le répète, hein, c'est la méthode Coué, peut-être que vous allez vous en convaincre. En tout cas, nous, on est ensemble jusqu'à 18h en direct pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Trois invités aujourd'hui, deux qui vont nous parler de solidarité et un autre de culture. Pour les deux premiers, Naïla Gauthier d'abord, qui est fondatrice de l'association Les Mamans du Cœur de Trappes. Elle nous dira tout ce qui a été mis en place par l'association pour venir en aide aux plus démunis dans les hôtels sociaux. Il y en a plusieurs, vous le savez, sur la ville de Trappes. Nous recevrons également Pascal Rodier, secrétaire départemental du Secours Populaire Français pour les Yvelines. Il nous dira également tout ce qui a été mis en place par le Secours Populaire Français depuis le début de cette pandémie. Notre troisième invité, Kenan Desaldeler, qui est chef du projet du festival Pulsation. C'est un festival qui devait se faire normalement les 26 et 27 septembre prochains. Il nous annoncera en direct le report de ce festival à l'île de loisirs, bien sûr, toujours, et qui sera reporté à l'année prochaine, donc les 25 et 26 septembre de l'année 2021. En fin d'émission, on retrouvera Pierre de l'UFC Que Choisir pour sa minute consommation. La question à laquelle il répondra, peut-on déménager pendant le confinement ? Ah, suspense, rendez-vous en fin d'émission. Allez, comme à notre habitude, on commence cette émission en chanson, en musique, et on revient juste après avec notre premier invité. A tout de suite.
Hey, what's up, man?
Brother, what's up? This is a
hey, big doing?
Party, man.
Yeah,
I
brother,
can dig like, it.
Stop.
Right on.
Mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate.
You know we've got to find a way
to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Judge us simply 'cause our hair is long. Talk to me. You can.
can't see. What's going on? Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right, right on. Right on.
Marvin Gaye sur les ondes de Marmite FM 88.4. Vous écoutez Marmite fait son actu. Nous sommes en direct de 17h à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Tout de suite, la première invitée de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Naïla Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de l'association Les Mamans du Cœur, Attrape, fondatrice et membre active, bien sûr. Vous êtes très présente sur les actions de solidarité qui se sont multipliées à Attrape depuis le début de la crise du coronavirus. Alors pour débuter, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore votre association, est-ce que vous pourriez nous la présenter en quelques mots ?
En quelques mots, c'est une association qui est basée sur la citoyenneté. Pour moi, citoyenneté qui veut dire responsabilité de chaque personne dans son environnement proche.
Ouais.
Donc, à la base, c'est le fait de lier les citoyens de mon quartier et de ma ville pour pouvoir agir de par eux-mêmes dans les besoins de tous les jours.
Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis le début de la crise et du confinement, notamment à destination des hôtels sociaux ?
Alors, en fait, quand j'ai vu tout de suite qu'on allait devoir être confinés, j'ai pensé aux membres des hôtels qui sont tout autour de moi, donc Formule 1, Enzo et Première Classe.
Oui.
Sachant que pour le pavillon bleu, c'était que le responsable nous a dit qu'ils n'avaient pas le droit de recevoir des denrées.
Oui.
Donc du coup, j'ai pensé à ces habitants qui étaient isolés, surtout le Première Classe qui n'a pas, très peu limité en moyens de transport. Et je me suis dit, il va falloir alors aller faire des courses pour eux, trouver une solution en tout cas pour que, même s'ils sont confinés, qu'ils puissent avoir des denrées. Donc j'ai mis en place avec les associations qui sont autour de moi, comme Fodol par exemple,
oui.
J'ai demandé s'ils avaient des denrées dans leur stock pour pouvoir distribuer à ces hôtels, et on a pris dans nos fonds de l'association pour pouvoir acheter de grands sacs de riz, de la sauce tomate, de l'huile, pour qu'ils aient au moins les premières nécessités, comme nous on a pensé pour nous-mêmes quand on a eu peur de ce confinement et des effets dans les magasins.
Alors justement, qui sont ces personnes qui sont hébergées dans les hôtels sociaux Attrape ? Alors on dit hôtels sociaux, c'est pas des hôtels sociaux, hein. C'est des hôtels normaux, on va dire, mais qui reçoivent des personnes en hébergement d'urgence, c'est ça ?
C'est ça. En fait, la plupart des gens qui sont dans ces hôtels, en fait, c'est vrai que c'est des hôtels, en fait, avant tout, c'est pour des clients qui ont besoin d'hôtels pour des périodes, et en fin de compte, ils ont une bonne partie qui est logée par le 115. Et tous les hôtels de Trappe, en plus d'habitants 115 que de touristes ou de clients, en fait.
D'accord. Du coup, ces personnes qui sont renvoyées par le 115, ça peut être tout, hein. Ça peut être
qui étaient à la rue, des personnes sans papier, des femmes isolées avec des enfants qui n'avaient plus de domicile,
ouais.
Des gens venant de l'étranger sans papier qui ont été pris en charge par le 115, voilà. Ouais.
Et combien de temps en moyenne ces personnes restent dans ces hôtels à Trappe ? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises rapidement en place ou est-ce que c'est compliqué ?
Non, c'est compliqué. On a des gens qui sont là depuis plus de 3 ans.
Ah oui, plus de 3 ans.
Oui, ça fait plus de 3 ans qu'on les voit dans le même hôtel avec leur famille, leurs enfants, par exemple l'hôtel Enzo, leurs enfants sont dans la même école que nos enfants. Par exemple, à Jean Massé, on a beaucoup d'enfants qui sont dans l'hôtel Enzo qui est à 5 minutes à pied.
Oui,
donc ils ont tous suivi leur scolarité depuis la maternelle. Maintenant, ils arrivent en primaire en étant toujours hébergés dans une chambre avec des fois 2-3 enfants, des fois avec les deux parents, souvent plus avec juste la maman.
Alors, on le sait, Naïla, pour cette crise du Covid-19, il y a beaucoup de consignes sanitaires qui ont été données. Alors vous qui avez l'habitude, hein, même avant cette crise, vous avez l'habitude de rencontrer beaucoup de monde, notamment pour les distributions. Est-ce que vous mettez en place des gestes barrières? Est-ce que vous avez à votre disposition, des masques, des gants? Est-ce que vous arrivez à travailler? Il y a beaucoup d'associations notamment qui s'étaient plaintes de ne pas avoir de tout ce matériel. Voilà. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place aussi?
Totalement. La première fois que j'ai commencé à acheter les sacs de riz en grande quantité dans un magasin, je ne sais pas si je peux nommer le magasin.
Non, c'est pas la peine. Ben ça dépend. Est-ce qu'ils ont fait une bêtise ou pas?
Non, parce que le magasin ProWitch, par exemple, lui, il nous a offert pas mal de packs d'eau. Quand on venait acheter dans ce magasin et qu'il savait que c'était pour les hôtels, par exemple, il nous les offrait. Il ne voulait pas de notre argent.
D'accord.
Et en fin de compte, la première chose que j'ai fait, donc du coup, quand j'ai acheté en grande quantité, j'ai acheté des gants parce que les masques, c'était impossible de les trouver.
Oui.
Et ensuite, c'est Trappe, Cœur de Trappe qui, lui, a réussi à avoir des masques, qui nous en a fourni. J'ai Faudol au début. Quand j'en avais pas du tout, c'est Faudol qui en avait 2-3. Bah, du coup, il partageait avec nous. Mm-hmm. Jusqu'à que Cœur de Trappe a pu récupérer 500 masques et a partagé avec plusieurs associations. Et là, ça nous a facilité en attendant d'avoir une maman qui est déjà en difficulté qui a pu nous coudre aussi des masques en tissu. Mm-hmm. Voilà, donc les premiers gestes barrières, c'est juste déjà au moins des gants. Et puis on a les masques, d'une, déjà pour les rassurer eux, parce que sachant que nous, on fait 3 hôtels différents, bah forcément on est en contact avec plusieurs personnes différentes.
Oui.
Et eux, déjà de les rassurer eux, de voir qu'on se protège, et nous aussi pour se protéger d'eux, parce qu'on sait très bien que dans les hôtels, on voit des cas de personnes qui toussent ou qui ont la grippe, et forcément on a peur, enfin on a peur aussi pour nous et pour les autres, et on les habitue à ces distances de sécurité lors de la distribution. Déjà, c'est plus de 2 mètres entre chaque personne quand elle vient chercher son colis dans le camion.
Oui.
Et pour les habituer et pour nous-mêmes être respectés dans cette distance aussi.
Alors, on le sait, hein, déjà, c'était des familles ou des personnes qui étaient assez isolées. Est-ce que vous arrivez à garder un contact avec elles quand même en dehors de la distribution? Est-ce qu'ils vous demandent, là, est-ce qu'il y a des appels téléphoniques qui se mettent en place? Voilà, est-ce qu'ils arrivent à avoir quand même des contacts avec l'extérieur ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui restent quand même isolés?
Ils sont isolés. Nous, ce qu'on a fait pour le première classe, par exemple, je leur ai tous donné une carte avec mon numéro de téléphone et me contacter vraiment en cas d'urgence, s'il y a vraiment une nouvelle famille qui arrive ou un gros besoin d'urgence. Mais malgré tout, ils sont isolés parce que je sais très bien que certains n'ont pas osé dire « je ne sais pas lire ». Mais ouais, ils savent qu'ils nous voient au moins une fois tous les 2 jours et ils savent qu'ils peuvent venir vers nous et ne pas hésiter à nous demander, comme par exemple un monsieur qui avait une très grande douleur à la hanche et en même temps un problème asthmatique. Et du coup, il est venu nous voir à part et on a pu lui remettre des médicaments pour son asthme. Et en fait, le problème à sa hanche, c'était des vers. Il avait des vers et ça créait des grandes douleurs abdominales. Et du coup, on a pu aussi lui acheter des médicaments pour au moins se soulager de cette gêne, en fait.
Ouais.
Mais ils peuvent venir nous demander une riseuse. Ils savent, on leur a dit, surtout ne soyez pas gênés. Ce qui vous arrive, ça peut arriver à tout le monde. Et le but, c'est de vous sortir, de vous aider jusqu'à que vous sortiez de là et que vous deveniez des acteurs comme nous après, que vous puissiez aider. Donc en faisant de l'empathie, en les rassurant, en les valorisant, en leur montrant que c'est pas des personnes pour nous qu'on voit inférieures à nous, ils sont égales à nous, mais on leur fait comprendre que il faut qu'ils nous fassent confiance, quoi, qu'on est là pour eux. C'est comme des invités pour nous, puisqu'ils sont dans un hôtel, et qu'en attendant d'être dans leur propre lieu, ils peuvent compter sur nous, que ce qu'on leur donne déjà, je leur fais bien comprendre, je leur dis, il n'y a rien qui sort de ma poche, et c'est une réalité, puisque c'est basé sur l'esprit de la solidarité, des habitants de Trappe, ou d'ailleurs, qui me donnent des dons.
Et ce sont des dons.
Et des associations. Donc en les rassurant, en leur montrant que vous inquiétez pas, ça vient pas de moi, il y a ce qu'il faut, et ben ils osent. Et malgré qu'on leur dise ça, ils osent, mais ils n'abusent pas. J'ai jamais eu une personne qui abuse du fait qu'on lui dit « n'hésite pas si tu as besoin ».
Vous avez parlé de la solidarité à Trappe, car effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'actions qui se sont mises en place, hein, qu'on en entende parler ou pas, mais en tout cas, il y en a eu beaucoup qui se sont mises en place, voilà, qui montrent aussi la solidarité des Trappistes dans les moments difficiles.
Oui. En fait, contrairement à ce que, quand je regarde la télé, les infos, je suis contente parce que je vois qu'en France, ça commence à se développer. Et en même temps, je suis fière parce que ça a été plus rapide à Trappe, parce que pour moi, c'est habituel. En fait, à Trappe, on n'a pas eu besoin d'attendre une crise sanitaire comme ça pour avoir cet esprit de solidarité. Et c'est ce qui m'a facilité à pouvoir faire les choses aussi rapidement. Il suffisait de dire sur les réseaux sociaux que j'avais ces besoins et Faudol a tout de suite répondu. Et d'autres personnes anonymes ont répondu. Et c'est vrai que le fait que ce soit déjà habituel à Trappes, ça a facilité beaucoup à repérer tout besoin dans la ville. Et après, ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de... Je me décharge, c'est-à-dire si je vois une annonce pour une personne qui habite dans la ville et qui est prévisoirement en difficulté, je me dis pas... on se dit pas, nous on va faire, on va tout prendre en charge. Ça veut dire que je peux solliciter une autre association ou un autre électron libre. Donc électron libre, c'est des personnes qui font sous le nom d'aucune association, mais qui aident aussi facilement. Et c'est un carnet d'adresses en fait. Il existe des carnets d'adresses associatives, des carnets d'adresses électron libre, et ça facilite vraiment. C'est-à-dire qu'aucun appel ne me fait peur. Je me dis pas si quelqu'un va nous demander quelque chose, on pourra pas parce que c'est trop. Parce qu'on compte pas que sur nous, on compte vraiment sur l'esprit solidarité inter-association, inter-électro-libre, inter-citoyen.
Pour terminer, Naïla Gauthier, donc fondatrice des Mamans du Cœur et membre actif de cette association, quels sont vos besoins en termes de bénévoles, d'une part, ou de produits divers et variés? Alors, est-ce que vous avez des demandes spécifiques en termes de bénévoles ou justement sur, même si vous avez déjà plus ou moins répondu à cette question?
Oui, en termes de bénévoles, en fait, pour moi, tout le monde est bénévole, c'est-à-dire que les gens qui nous donnent des dons, je les considère vraiment comme des bénévoles. Et en termes de produits, parce qu'en fait, on ne peut pas prendre le risque, c'est une crise sanitaire qu'on ne connaît pas, enfin, c'est une maladie, un virus qu'on ne connaît pas, on ne peut pas prendre le risque de venir à plusieurs distribuer dans les hôtels pour la raison déjà de mettre en sécurité et ceux qui sont dans les hôtels et les personnes qui viendraient avec nous. Et en même temps, c'est pas pour... plus on est, ça ne sert pas à grand-chose d'être à plusieurs à venir distribuer. L'essentiel, c'est créer un lien de confiance avec ces gens-là. Donc, j'ai plus besoin vraiment de gens qui seraient prêts à les donner par eux-mêmes. C'est-à-dire que si on m'appelle, on me dit, voilà, moi j'aimerais faire un don, est-ce que je peux vous donner? J'incite toujours d'abord à leur dire, est-ce que vous voulez que je vous donne un numéro de chambre ou un numéro de téléphone ou une personne qui a besoin? Et ça se passe souvent comme ça d'ailleurs. Hein, c'est que le fait d'inciter, de ne pas faciliter à dire, vous ramenez aux Mamans du Cœur, puis après les Mamans du Cœur vont le faire. Ça incite vraiment aux personnes de se rendre compte de la réalité du terrain et à faire l'effet, comment on dit, boule de neige. Ça veut dire que la personne qui va venir et qui va voir par elle-même va par la suite contacter ses amis ou ses proches et dire, tiens, j'ai réellement vécu ça, il y a de réels besoins. Mais si oui, s'il y a des pour le ramadan plus qu'à venir, parce qu'il ne faut pas se cacher que dans les hôtels sociaux, il y a beaucoup de personnes de confession musulmane qui vont jeûner le mois du ramadan. Donc effectivement, il y a des besoins, on va dire pour nourriture, ce serait de l'huile, du riz, toutes les denrées secs en fait qu'on utiliserait nous-mêmes. Mm-hmm. Plus la chose la plus rare, c'est vrai que c'est les fruits et les légumes. Si des gens veulent faire des livraisons via des commandes internet, des paniers et leur livrer, c'est possible. Les couches, du lait pour bébé, on a encore une maman qui a accouché avant-hier, donc... Il y a beaucoup d'enfants de bas âge, il y a besoin de beaucoup de lait maternel, mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'on fait attention à ce que le SAMU social, il livre aussi. C'est-à-dire que, par exemple, avant-hier, ils ont reçu des chèques du SAMU social. Mmh. On ne cherche pas non plus à leur donner trop, ça ne sert à rien. Ils ont des petites chambres, si c'est pour qu'ils stockent, ce n'est pas bon non plus. Mais on essaye d'équilibrer. Si un hôtel, on sait que lui, il a été livré, bon, on va plus privilégier un autre. Mmh. Donc, les besoins, c'est juste demander aux gens d'imaginer si vous êtes chez vous et il vous manque quelque chose, qu'est-ce que vous avez besoin en première nécessité? Eh bien, c'est la même chose qu'il faut pour ces hôtels-là, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants de bas âge.
Et j'ai oublié de vous demander, pour vous contacter, comment on peut faire?
Vous pouvez m'appeler sur mon numéro, 06 89 27 11 20. Et en général, je réponds plutôt aux textos, parce que comme j'ai trop d'appels, quand je lis plutôt tous mes textos, et je gère les urgences ou les demandes. Et sinon, il y a une page Facebook Maman du Cœur.
Très bien. Donc 06 89 27 11 20 ou bien sinon directement en envoyant des messages sur la page Facebook Maman du Cœur. Voilà, vous tapez Maman du Cœur Trappes, vous tomberez directement sur la page. Merci en tout cas, Naïla Gauthier. Merci, donc fondatrice de l'association Les Mamans du Cœur et membre actif de cette association, de nous avoir appelé. Merci beaucoup.
Merci à vous et je souhaite à tout le monde vraiment de pouvoir sortir avec sain et sauf de ce confinement. Et je demande surtout, c'est garder confiance. Tout a un début, tout a une fin, et je pense qu'on va sortir que meilleur. Après chaque crise, on ressort plus fort. Et j'ai vraiment confiance en chaque personne trappiste, chaque association, chaque électro libre et chaque personne qui écoute. C'est vrai que c'est difficile le confinement, mais on doit passer par là et autant essayer d'utiliser ce confinement pour faire quelque chose de bien. Et j'ai quelque chose que je ne vous ai pas dit et que j'aimerais aussi dire, si vous me permettez.
Oui, allez-y.
C'est par rapport, là, ça va être la fin de la période scolaire, enfin des vacances scolaires, et on va retourner au devoir avec les enfants. S'il vous plaît, les parents, ne mettez pas la pression aux enfants, ça ne sert vraiment à rien, parce qu'on a aussi, comme on est citoyen, on a beaucoup d'appels par rapport aux parents qui sont en difficulté avec leurs enfants. Les professeurs ont dit, le plus important, on n'est pas professeur, on est parents. Si on aurait pu être professeur, on aurait tous fait école à la maison. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il y a des professionnels pour ça. Privilégiez les jeux avec vos enfants. Et s'ils ne comprennent pas, c'est pas parce que votre enfant est bête. Ils ne comprennent pas parce qu'ils sont en train d'apprendre. Quand ils sont à l'école, le prof laisse plus passer parce qu'il connaît que l'enfant il a besoin de répétition pour acquérir une matière. Donc nous, on veut qu'en une journée, il ait acquis tout ce que le prof nous demande. Mais non, ce n'est pas en une journée, c'est avec la répétition qu'on apprend. N'oubliez pas que vous avez été enfant, que ça a été difficile pour vous, ou du moins que vous n'avez pas appris du jour au lendemain. Bah, pour les enfants, c'est pareil. Ne paniquez pas et passez plus de temps à jouer, à partager et ne stressez pas si les devoirs sont pas finis en fin de journée. Voilà, j'étais un petit peu longue, mais vraiment, il n'y a pas que des problèmes alimentaires. Il y a aussi ce problème avec les enfants qu'il faut qu'on prenne soin de se dire, ce n'est pas catastrophique. Un enfant, c'est très intelligent, ça peut vite récupérer les capacités. Donc, s'il vous plaît, beaucoup, beaucoup de patience déjà pour vous. Ne vous remettez pas en question, c'est pas vous qui avez un problème, c'est pas l'enfant qui a un problème, c'est juste que nous traversons tous quelque chose de nouveau, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour nos finances et que ce soit pour nos enfants. Voilà, merci de m'avoir laissé ce temps.
Merci beaucoup Naïla Gauthier, à bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Ah, le confinement, vous en avez marre, hein. C'est embêtant, hein, pour pas dire autre chose. Bon bah, comme faut faire avec. On va essayer de se détendre avec un peu de musique. On revient juste après avec notre second invité.
.25-06, son cœur a lâché. J'ai eu beau zapper, mais impossible d'y échapper. Quand le JT se mue en produits dérivés, tes errants continuent de cramer. Le thriller est terminé. Derrière son clavier, tout le monde y va de son RIP. Mais quand un pays entier suffoque, mes amis virtuels préfèrent s'envoyer des pocs. Il a cessé de chanter, et à Bagdad, les balles, elles continuent de siffler. C'est ce que j'ai lu vite fait, comme un texte au karaoké. Entre le cours de la bourse et le résultat du quintet, il est tombé à pic, 21h50, pile. Pour faire l'économie des infos urticantes, le choix a été vite fait entre un spectacle et le réel. Une drôle de dame est Michael. .25-06, il nous quitte avant l'âge. Et la rubrique nécrologique s'invite en première page. En marge, je pense à l'homme de 50 ans. Un Peter Pan aux gants d'argent, avançant dans le temps. En moonwalk pour retrouver l'enfant. Un seul pas, de la créature à l'idole. Quoi de mieux, comme sépulture qu'une tête de gondole. Entre Billy et Bad, le cœur du président chaloux. 6 mois plus tard, I want you back en Guadeloupe. Quand l'overdose supplante l'hommage et que les médias développent un appétit de nécrophage, les sujets vivants ne cadrent plus dans l'image, encore moins les campeurs urbains et ceux qui pointent au chômage. Le rêve n'a pas de prix. Et tout le monde est ravi d'offrir 500 000 à Johnny. Si j'ai une fille, je l'appellerai Palestine ou Israël. Si c'est un garçon, ce sera Michael. .25-06, c'est la fin d'une époque. Le roi est mort, vive le roi de la pop. L'occasion de vider les stocks, remonter dans le top et profiter du vague à l'âme. Puisqu'il n'allumera plus les dalles de macadam, on s'enflamme, on s'emballe sur la chorégraphie du clip de Bad. Et un attentat de plus à Bagdad. Les paysans battent le pavé dans l'indifférence. Et on regarde en boucle 3 pas de danse. d'image en image, on divague, on zigzague, du caisson d'oxygène au body bag. Sans blague, la sensation d'être prise en otage entre un visage d'ange et un masque sans âge. Aujourd'hui à la une, pas de happy end. Demain, ils rebaptisent la planète Neverland. À croire que la Terre même, elle, s'est arrêtée de tourner pour Michael.
Hocus Pocus sur les ondes de Marmite FM 88.4. Vous écoutez bien sûr votre émission du mercredi, Marmite fait son actu. On est ensemble en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Allez, tout de suite, on reçoit notre second invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Pascal Rodier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire départemental du Secours populaire français pour les Yvelines. Le Secours populaire des Yvelines qui s'est engagé dès le début de la crise a continué son engagement en faveur des personnes les plus précaires. Alors en cette période de confinement, comment s'est organisé le travail des bénévoles ?
Alors en fait, on a très tôt donné les consignes sanitaires pour limiter les risques. On a réduit la présence des bénévoles dans les structures. On a suspendu toutefois toutes les activités, on va dire, non vitales. Donc on s'est concentré sur la possibilité de faire des aides alimentaires d'urgence sous forme de colis, et la plupart du temps, enfin c'est pas la plupart du temps, c'est tout le temps d'ailleurs, les personnes qui souhaitent avoir un colis doivent passer par un système de prise de rendez-vous. Donc quand ce sont des habitués, on leur téléphone pour s'assurer d'une heure de passage pour eux. Et puis pour les personnes qui sont redirigées par les travailleurs sociaux, on demande le numéro de téléphone. La plupart du temps, les personnes en ont un. Et on convient d'un jour et d'un moment de passage. Et ça se passe plutôt bien pour le moment. On a assez tôt pu obtenir des gels hydroalcooliques et des masques.
Et des masques également.
Par le biais du réseau Secours Populaire et puis par la suite par le soutien de la préfecture des Yvelines, la direction départementale de la cohésion sociale, ce qui fait que tout le monde est protégé pour pouvoir faire du bénévolat. J'ajoute que dans certains cas, on porte les colis à domicile pour les personnes les plus isolées.
Oui. Voilà. Alors justement, Pascal Rodier, comment vous avez récupéré notamment les colis ? Est-ce que c'est plus difficile ? Parce qu'on sait que depuis le début de la crise, surtout dans les grandes surfaces, il y a une interdiction de faire des collectes. Alors, comment vous avez fait pour récupérer des denrées, notamment ?
Comme on fait des distributions alimentaires toute l'année, on a une dotation par l'Europe. Ça s'appelle le Fonds européen d'aide aux démunis. Donc ça, on peut déstocker progressivement de manière à ce qu'il y ait au moins des produits de base qui soient disponibles. Après, la plupart des structures ont des stocks. Et on a aussi, faut le dire, la générosité des industriels et des restaurateurs et des producteurs de produits qui proposent en fait des produits qu'eux-mêmes ne réussissent plus à écouler. On a eu aussi des collèges ou des lycées qui nous ont proposé des produits frais qu'on a pu comme ça récupérer et reproposer aux familles. Et on commence en fait à demander aux amis bénévoles ou qui souhaitent aider le Secours populaire en fait d'organiser une forme de collecte à plus petite échelle, soit dans leur quartier, soit au bas de leur immeuble, en mettant des caisses dans lesquelles les gens sont invités à déposer les produits, et puis on les récupère comme ça. Alors ça rend pas autant de produits qu'une collecte à la sortie des grandes surfaces, mais ça permet de mobiliser beaucoup de monde, et puis de permettre à chacun, même confiné, de pouvoir donner un coup de main. Il y a voilà, pas de, ouais. C'est plutôt pas mal.
Il n'y a pas de risque là à moyen terme que vous soyez en manque de denrées pour l'instant en tout cas.
Si ça continue après le 11 mai où tous nos enfants iront à l'école et la France repartira en bon ordre de marche, si j'ai bien compris.
Ouais. C'est pas encore sûr. Hein.
Non, c'est pas encore sûr. C'est pour ça que je faisais un petit peu. Enfin, j'étais un peu. C'est un autre sujet. Mais disons que pour l'instant, on réussit quand même comme ça à peu près à tenir. Le truc, enfin, la difficulté qu'on risque d'avoir à partir de mai. Parce que même si des confinements il sera vraisemblablement progressif, c'est que en fait notre dotation de produits de l'Union européenne, la campagne est terminée et normalement ça reprend dans le meilleur des cas en juin. Et là, on n'est pas du tout sûr que la soudure puisse se faire, donc ça risque là d'être un petit peu compliqué. Mmh. Donc on procédera dans la mesure de nos possibilités à des achats, mais ça restera toujours à la marge, puisque, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, une programmation du Fonds européen des dos démunis en aliments dans le département des Yvelines, ça coûte plus de 200 000 euros.
Ah oui.
Donc autant dire qu'on ne pourra pas faire face avec notre trésorerie, quoi.
On va parler, si vous le voulez bien, Pascal Rodier, d'autres actions également que vous avez mises en place pendant cette période de pandémie. Alors, une action qui existe déjà, hein, qui existait déjà, puisque on a eu l'occasion d'en parler ici, mais à l'occasion justement de cette crise, la solitude des personnes isolées ressort encore plus, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Elle est accrue. Vous essayez d'y pallier avec l'action notamment intergénérationnelle Copains du Monde. Alors, en quoi consiste cette action?
Alors, on a Copains du Monde, c'est un mouvement d'enfants interne au Secours Populaire. Ça permet aux enfants à partir de 6 ans d'être sensibilisés à la solidarité, mais aussi d'être acteurs de solidarité. Mmh. On leur a proposé de faire des petits dessins de soutien pour les personnes qu'on puisse éventuellement comme ça les diffuser. Donc pour les parents aussi, ça permet de parler de solidarité et puis les enfants, ça crée un lien dans la famille où on parle autour de l'entraide, de la solidarité et tout ça. Mmh. Et puis on a eu récemment une dotation par on peut dire les noms des magasins sur votre...
Oui, allez-y.
Ouais. il y a Truffaut Plaisir qui nous a donné des orchidées. Puisque les magasins étant fermés, je pense que ça risquait d'être perdu. Et donc là, en fait, ce que l'on a fait, on les a récupérés pour les proposer notamment aux personnes âgées de la maison de retraite de Trappes. Mmh. Et les enfants Copains du Monde ont fait des petits dessins de soutien pour dire qu'ils pensaient à eux, puisque lors de notre village d'enfants Copains du Monde du mois de juillet dernier, les enfants qui étaient sur la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, c'était des petits Français avec des enfants d'autres pays qui étaient regroupés dans le cadre d'un village d'enfants. Ils avaient passé une journée avec les personnes âgées. Et donc une partie des personnes âgées s'en souvient et une partie des enfants s'en est souvenue aussi. Donc du coup, on a créé un lien même à distance par le biais des dessins et des échanges de correspondance un peu. Mmh. Voilà.
Alors vous avez également, Pascal Rodier, organisé avec le Secours Populaire français des Yvelines un réseau solidaire.
Alors... on n'a pas organisé nous tout seuls. On a déjà des contacts avec plusieurs associations sur la ville hein, de Trappes. Donc il y a la Mission Populaire, il y a Cœur de Trappes, il y a les Mamans du Cœur, il y a les personnes de la paroisse de Trappes aussi. Mmh. On faisait jusqu'à présent peut-être de manière un peu dispersée de l'aide, notamment pour les gens qui sont en hôtel,
oui,
dans les hôtels sociaux, parce qu'il y en a beaucoup en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en hôtels sociaux sur la ville de Trappes, disséminées dans plusieurs hôtels. Et donc chacun dans notre coin, j'ai envie de dire, on pouvait avoir la possibilité d'aider des personnes où on était sollicité pour les aider. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est mis en réseau entre nous. Mmh. pour savoir un petit peu qui faisait quoi dans cette affaire. Et là, pour récemment, pour les personnes qui sont sur le pavillon bleu, on a mis à disposition nos espaces à une autre association pour qu'ils puissent faire leur colis, enfin remettre leur colis au public. Mmh. Et on essaye comme ça aussi de se donner des infos, notamment sur les liens sur Internet auxquels on peut accéder pour occuper ses enfants. Mmh. on essaye aussi de se dépanner quand il est possible de le faire. Mmh. Et on essaye de fonctionner comme ça un petit peu tous ensemble. Mmh. Et je dois dire aussi que, bon, déjà, il y a une grosse tradition de solidarité sur la ville de Trappes malgré tout. Mmh. Donc il y a un tissu associatif assez fort. Et donc là, il joue à plein, j'ai envie de dire. Mmh. Et puis, je dois souligner aussi qu'il y a des, y compris des initiatives individuelles, parfois de personnes, pour déclencher des solidarités dans le voisinage ou auprès de personnes dont ils se rendent compte qu'ils sont complètement isolés. Mmh. Et il y a beaucoup, beaucoup comme ça d'actes peut-être invisibles du grand public, mais qui sont très forts sur le terrain. Il y a des gens qui réalisent des masques pour distribuer, hein, pas pour vendre, pas pour faire du business. Mmh. Il y a des personnes qui apportent à manger au personnel de l'hôpital de Trappes parce que la cafétéria est fermée le week-end. Enfin, voilà, il y a énormément de mobilisation citoyenne. Et bon, je pense que c'est important de s'en faire l'écho sur votre radio.
Ouais. Pour terminer, Pascal Rodier, le maire du Vésinet, Bernard Grouchko, a décidé de reverser ses indemnités de maire, oui, au Secours populaire français des Yvelines. Alors, oui, comment vous accueillez-vous ce genre d'initiative, et est-ce que vous en attendez d'autres éventuellement?
Ah bah, si tous les maires des Yvelines voulaient faire pareil, on serait d'accord. Hein. En fait, ça s'est fait du fait que il y a une structure locale sur Château-Croissy, le Vésinet, qui est très active. C'est, ouais, la seule sur la ville qui est ouverte pour continuer de donner des repas aux personnes en difficulté. Donc le maire spontanément a proposé de reverser ses indemnités. On lui a transmis un RIB. Pas de problème. Si tous les maires veulent faire la même chose, je pense qu'on réussira à gérer. En plus, notre banque sera contente de voir qu'on réussit à maintenir notre trésorerie, donc ça sera très bien. Mmh. On a été heureusement surpris, mais c'est aussi pour dire toutes les bonnes volontés peuvent comme ça utiliser les canaux solidaires comme le Secours populaire pour être utile dans cette période-là, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien.
Et une petite dernière chose encore pour terminer, on termine deux fois l'émission. voilà, pour celles et ceux qui souhaiteraient soit vous aider par des dons, vous contacter. Je sais que voilà, vous êtes souvent également en recherche de bénévoles, même si c'est peut-être, oui, difficile de leur faire quelque chose, hein, en ce moment avec le confinement et tous les gestes barrières à respecter. Mais voilà, pour vous contacter, comment on fait?
Alors, il faut téléphoner à la fédération au 01 30 50 46 26 ou bien envoyer un mail à contact comme un contact @spf comme Secours populaire français 78.org et dire où est-ce qu'on habite, ce qu'on se propose de faire. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que en fait on peut pas ouvrir en grand nos structures et c'est souvent en effectif restreint, mais on réussit toujours à proposer des actions y compris en extérieur. Il y a besoin de livrer des produits chez les gens, il y a besoin d'aller chercher des produits à droite à gauche, donc on peut occuper beaucoup de monde quand même. Mmh. Il y a déjà plus de 200 bénévoles qui nous ont rejoints sur l'ensemble du département depuis le début de la crise.
Ah oui, d'accord. Donc, un chiffre assez conséquent.
Ouais. Oui.
Merci en tout cas, Pascal Rodier, d'être intervenu sur Marmite FM pour nous parler de toutes les actions que vous mettez en place. On l'a compris, pas seul, avec d'autres associations également qui participent. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Marmite FM 88.4, c'est votre émission du mercredi. Marmite fait son actu, on est ensemble en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. On passe au troisième invité de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Kenan Dessal-Deller, bonjour.
Bonjour Nadine.
Vous êtes un des membres de l'association Animasso, c'est chef de projet du festival Pulsation. Vous êtes avec nous justement pour nous parler du report de ce festival Pulsation, c'est officiel. C'est le premier festival qui devait se dérouler à l'île de loisirs les 26 et 27 septembre prochains, avec des concerts notamment, de l'art de rue, un village associatif et solidaire. Coronavirus oblige, vous avez pris la décision de reporter le festival à l'année prochaine. Alors même si les rassemblements culturels pour l'instant, ils sont interdits jusqu'à la mi-juillet, ça va peut-être se poursuivre, vous avez quand même décidé de reporter. Alors pourquoi ?
Alors tout à fait, en fait, on a pris la décision de reporter le festival, évidemment à cause des conditions sanitaires exceptionnelles qu'on connaît tous en ce moment, pour le reporter dans un an, les 25 et 26 septembre 2021. Alors c'est pas que lié directement au fait qu'on puisse imaginer que fin septembre, il y a encore des interdictions de tenue d'événements, mais c'est aussi parce que bah là, les mois que nous sommes en train de passer, qui sont des mois un peu cruciaux pour l'événement, et là on est forcément en train de perdre du temps par rapport au partenariat, par rapport à l'organisation, par rapport à toute la logistique et la technique qui va avec le festival, donc depuis mars, donc là ça va courir sur mars, avril, mai, et puis après on verra évidemment les annonces et les nouvelles suivantes, mais c'est forcément un peu compliqué là de mettre en place et de préparer le festival pour qu'il soit et qu'il se déroule dans les meilleures conditions possibles fin septembre. Donc il nous a semblé plus sage et plus raisonnable là actuellement de reporter le festival d'un an.
Vous en étiez où de la préparation du festival? Parce que ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes en train de travailler dessus.
Tout à fait, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le festival. Donc la première année, on a pris un grand temps de réflexion, on a questionné un peu les gens autour de nous, les structures, les associations, les institutions aussi, pour voir un peu ce qui était possible de faire sur le territoire de Saint-Quentin. Et puis là, depuis un an, on était vraiment sur le cas pratique de l'organisation du festival. On est arrivé au moment de la contractualisation des artistes pour la programmation. Donc la programmation était effective à 90% à peu près. Donc on commençait à avoir vraiment la programmation complète du festival. Et bien évidemment, le report qu'on envisage là et qu'on a décidé, c'est un report qui soit en accord avec tous les partenaires du festival, que ce soit les partenaires institutionnels, associatifs, et puis bien sûr tous les professionnels avec qui on travaille, dont les artistes.
C'est donc un report du festival pour septembre 2021, aux dates du 25 et 26 septembre. Alors comment vous allez vous organiser pour l'année prochaine? Quel va être le programme là pour les mois à venir?
Eh ben, on est obligé de se réorganiser. Alors on était déjà en phase de réorganisation, puisque le temps qu'on avait pour finir de préparer le festival était plus court. Donc là, on va repartir sur un temps beaucoup plus long, sur un temps d'un an. Alors on a quand même la chance d'avoir toujours le soutien de nos partenaires de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui nous suit et qui a complètement validé le report et la date du festival, de Saint-Quentin-en-Yvelines aussi, qui continue de soutenir le festival. Donc là, maintenant, l'idée, c'est pendant un an, on va justement multiplier les partenaires et puis les événements aussi préfigurateurs pour le festival. Pour exemple, on allait organiser un tremplin avec notre partenaire La Batterie à Guyoncourt, qui est un tremplin artiste émergent. Donc ce tremplin va aussi être reporté dans le temps. Et on envisage peut-être aussi d'organiser plusieurs tremplins, plusieurs soirées partenaires, de mettre en place un club des partenaires, que ce soit pour les partenaires institutionnels, associatifs, toutes les structures. Et puis bien évidemment, des temps dédiés aussi au public, pour qu'on puisse avoir cette rencontre avec le public de festivaliers du festival. Et que ce soit des temps, que ce soit autour du tremplin ou des temps d'échange sur la construction du festival pendant l'année qui vient.
Voilà, on pourra continuer de vous suivre sur les réseaux sociaux, je suppose, également sur les sites internet.
Tout à fait. Alors, les réseaux sociaux, évidemment, sur le Facebook Festival Pulsation, on a un Instagram aussi qui est en train de s'ouvrir, le site internet très prochainement. Puis d'ailleurs, je vais en profiter pour remercier aussi l'ensemble des personnes, des structures, des prestataires, des artistes qui ont participé à l'aventure et qui continuent de s'engager avec nous sur le report jusqu'en 2021, puisqu'on a la chance d'avoir des artistes qui majoritairement pour le moment sont positionnés sur le report de 2021. Et bien évidemment les 18 personnes qui font partie de l'équipe et qui continuent de s'engager, de se motiver, de se manifester pour Animasos, pour l'organisation du festival. Et c'est très précieux, surtout en ce moment, en cette période de confinement qui est quand même très compliquée à gérer pour beaucoup. Donc on a quand même beaucoup de soutien autour et c'est aussi ce qui nous donne l'envie et la motivation de continuer et puis de reporter, puisque le report c'est pas une annulation, bien au contraire. Ça va être justement l'occasion que le festival prenne en ampleur pour l'année prochaine et de faire un événement, une première édition encore plus réussie qu'elle aurait pu être cette année.
Vous êtes dans le monde du spectacle,
hein. Oui.
Dans le monde du spectacle, c'est assez large, mais bon, parce que vous avez notamment créé une compagnie, les tisseurs de songes. Alors, quelle est votre situation actuellement? On sait que la situation, notamment des intermittents, alors c'est des intermittents, ça peut être des musiciens, des artistes qui devaient également intervenir, mais plus globalement, quelle est la situation pour vous actuellement avec ce confinement? Et surtout, quelle est la perspective, puisque on a entendu le président de la République parler lundi soir, et voilà, tout ce qui est concerts, salles de cinéma, etc., tout le spectacle vivant, en tout cas, cinéma à part, va pas reprendre tout de suite, en tout cas.
C'est exactement ça. En fait, la situation, elle est extrêmement compliquée. Alors, évidemment, au sein du spectacle vivant, elle l'est d'autant plus, parce qu'on est un des premiers secteurs qui a fermé au moment du début du confinement, donc on sera certainement un des derniers secteurs à réouvrir, puisqu'il y a quand même des regroupements de personnes, etc. Après, évidemment, la situation, elle va être un peu globale, parce que tout ce qui est bars, restaurants, les petits commerces indépendants, je pense aux librairies, etc., ça va aussi être très compliqué pour elles, puisqu'elles font quand même partie du domaine culturel aussi, mais je pense que ça va être compliqué globalement. Après, c'est certain que pour le spectacle vivant, nous, on a été impactés directement aussi. On avait quelques dates en région parisienne, on avait des prestations dans des entreprises, des maisons de quartier, etc. Tout a été évidemment annulé, pas forcément reporté, c'est bien ça le problème.
Ouais.
Après, maintenant, la question, ça va être l'engorgement des programmations, puisque comme les salles vont reporter majoritairement les spectacles qui ont été annulés pendant les mois de mars, avril, mai, juin, voire juillet,
ouais,
forcément les saisons suivantes, 2020-2021, 2021-2022, vont être plus engorgées qu'elles ne l'auraient été, donc vendre des spectacles et essayer de proposer des prestations artistiques, ça va être encore plus compliqué, mais on garde espoir et puis on continue surtout à travailler, on utilise ce temps pour se réorganiser au sein de la compagnie, pour repenser de futures créations, ouais, pour repenser d'autres projets, et on attend de voir comment ça va se dérouler, mais il faut garder espoir quand même que le secteur culturel puisse s'en sortir du mieux possible, parce que c'est sûr que ça va être compliqué dans les mois, années à venir.
Merci en tout cas, Kalan Dessal-Deller, d'être intervenu sur Marmite FM pour nous annoncer donc officiellement le report du festival Pulsation, qui, je le rappelle, devait se dérouler les 26 et 27 septembre prochains. C'est le premier festival vraiment de cette ampleur qui devait se dérouler à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, mais ce n'est que partie remise pour
exactement
l'année prochaine, donc les 25 et 26 septembre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci.
On termine cette émission de Marmite fait son actu avec la minute conso de Pierre Joanet de l'UFC Que Choisir. Cette semaine, Pierre nous pose une question importante en cette période de confinement. Peut-on déménager pendant le confinement? Pierre Joanet.
La minute consommateur avec Pierre Joanet.
Certaines personnes ont prévu de quitter leur logement courant avril, peut-être même en mai. Si le gouvernement incite les consommateurs à reporter l'événement jusqu'à la fin de la crise sanitaire, déménager reste autorisé sous certaines conditions. Les professionnels, eux, demandent l'interdiction. Sur les réseaux sociaux, les questions fusent. Le gouvernement a apporté des éclairages. Les déménagements sont autorisés, mais doivent être limités aux besoins stricts, comme par exemple une fin de bail. La préconisation reste cependant de reporter dans la mesure du possible l'événement une fois la crise du coronavirus passée. Pour ce faire, des mesures ont été mises en place. D'une part, la trêve hivernale a été prolongée, interdisant ainsi les expulsions de locataires jusqu'au 31 mai 2020. D'autre part, pour les locataires qui avaient posé leur congé et qui n'ont pas l'obligation de partir, ils peuvent demeurer dans le logement après la date initialement fixée et jusqu'à la fin du confinement. Cette autorisation doit être formulée par une convention d'occupation précaire signée du propriétaire et de l'occupant, par voie électronique si nécessaire, qui stipule notamment la date de sortie de ce dernier. Ce document n'exempte pas du paiement du loyer qui est dû jusqu'à la fin de l'occupation du logement. Locataires et propriétaires peuvent donc déménager en cas de nécessité impérieuse ou d'impossibilité de faire autrement. Le jour J, ils doivent rédiger une déclaration sur l'honneur mentionnant le caractère indispensable de l'événement ainsi que les adresses d'arrivée et de départ. Ce document doit rester en leur possession toute la durée du déménagement. Il est encore possible de louer un véhicule utilitaire, les entreprises de location de véhicules n'étant pas sous le coup d'une interdiction d'exercer. Idem du côté des sociétés spécialisées, qui ont encore le droit de travailler, mais 95% des entreprises de déménagement se sont encore mises au chômage technique. Et pour cause, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en charge des transports, indique que c'est l'entreprise de déménagement qui estime si elle est en capacité de mener des déménagements. C'est à elle d'organiser la sécurité de ses salariés et de respecter les consignes sanitaires. Or, il s'agit d'une situation totalement ubuesque pour le secteur du déménagement compte tenu de la difficulté de respecter les barrières sanitaires dues au métier lui-même. L'autre est la Chambre syndicale de déménagement, ont envoyé un courrier au secrétaire d'État aux transports soulignant la proximité obligatoire du personnel lors des opérations de manutention, lors des opérations de transport où les équipes se retrouvent confinées dans des cabines de véhicules et du contact direct avec les clients. Ils réclament ainsi que soient interdites les opérations de déménagement mettant en relation directement des professionnels avec leurs clients, et ce pendant toute la durée du confinement liée à la crise sanitaire. Cette demande n'a pour le moment pas été entendue. Thierry Gros, président de la CSD, indique que certaines personnes profitent de la situation et mettent en garde contre les pseudo-déménageurs qui proposent leur aide sur Internet de façon illégale. Méfiance donc, la meilleure décision s'avère de reporter votre mission. Les entreprises du secteur sont joignables et pourront vous conseiller.
Marmite fait son actu, c'est terminé. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir, à commenter sur les réseaux sociaux en vous rendant soit sur notre page Facebook Marmite FM ou bien sur le Twitter @MarmiteFM. Vous pouvez également passer par notre site internet marmitefm.canalblog.com. N'hésitez pas donc à nous y laisser toutes vos remarques ou suggestions. Le prochain direct, c'est mardi prochain à 17h. Et d'ici là, portez-vous bien.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.